commencer à l'heure, comme ça on pourra aussi finir à l'heure.
Alors ça fait plaisir de se rencontrer, et je pense qu'avant d'attaquer donc ce passage de un roi, on va quand même prier. Et il y a donc Maggie, Gino, donc tu nous as appris que Maggie est tombée.
Oui, elle m'a téléphoné tout à l'heure. Donc apparemment elle aurait raté une marche. Elle est tombée sur l'épaule et ils avaient peur pour la hanche, mais en fait elle a un gros hématome à la hanche. Et rien de cassé à la hanche, ni la prothèse. Donc elle remercie Dieu pour ça. Et donc, elle a quand même l'épaule cassée. Alors ils ne veulent pas opérer, ils l'ont pendée, quoi, et puis elle souffre, elle souffre.
Ouais. Parce que déjà elle était tombée la semaine dernière, elle s'était cassée une côte.
Non, l'épaule c'était autre chose. La côte c'était autre chose.
C'est autre chose, c'est un oui.
Deux fois.
Ah, elle est retombée.
Elle est retombée. Oh. Je ne sais pas s'il y a un autre sujet de prière que vous voulez partager. Johnny, rien de nouveau. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que sinon tu veux t'appeler ?
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous accordes. Merci parce que l'étude de ta parole est un bienfait qui donne la vie. Et nous sommes reconnaissants pour cela, de pouvoir le faire librement. Nous voulons t'apporter nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, tout particulièrement Maggie, tu vois, qui est retombée. Vraiment, pose ta main sur elle, console-la, apaise sa douleur et garde-la, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre l'aile et te demander de continuer à la garder et à la bénir. Et nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont en Ukraine et qui sont en ce moment en pleine guerre. Vraiment, Père Céleste, Dieu des armées, Dieu de paix, nous vous prions pour que ta volonté se fasse dans le précieux nom de Jésus.
Amen. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, hein, 1 roi 18, je vais couper le chauffage hein, parce que ça va. Alors, on va lire, donc la dernière fois, vous rappelez, on avait vu, on s'était arrêté au verset 18. Donc là, on va lire à partir du 19 jusqu'à la fin. Donc si vous voulez lire là, de quelques, voilà, 7 ou 8 versets chacun.
Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'Éternel qu'ils avaient fait.
À midi, Élie se moqua d'eux et dit : Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit : Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de ce nombre. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit : Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit : Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau le fossé.
Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit que l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que je sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et pour moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu, et que ce peuple se ramène là. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma le repos, le bois, le fer et la terre, une trappe sur l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le monde dit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est l'Éternel qui est là, c'est l'Éternel qui est là. Saisissez le prophète de Baal, leur dit : Il confirme que Dieu l'échappe, et il le saisit. Et lui, les fils descendent de Coran, ils disent : Et ils le dévorent. Et ils disent : Il l'échappe, non, mange. Car il se fait un bruit qui annonce la vie. Acharnez-vous pas pour manger pour moi. Mais au bout d'un bel sommet, l'Éternel se penchant contre terre, il mit son doigt pour se souvenir de Dieu.
Mon regard est du côté de la mer. Il se dit par moi. Hein. Il regarda et dit : Il n'y a rien. Il lui dit cette fois : Retourne. À la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui se lève de la mer, qui était comme la paume de la main d'un homme. Il dit : Monte. Il dit à la table : Qu'a-t-elle qui descend ? Il dit : La tribu est à la fin. En peu d'un peu, le ciel s'assombrit, dans les nuages, le vent s'établit, et il eut une forte pluie. La table monta sur ses chairs. Il partit dans le cœur d'Israël. Et la main de l'Éternel, qui se saignit, qui se saignit pour les reins, le courut devant sa table jusqu'à l'entrée de l'Israël.
Voilà. Bon, c'est un passage qui est long, mais ça aurait été dommage de le couper. Il se lit comme une aventure. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des films qui ont été écrits. C'est presque un scénario d'un film. Donc c'est vraiment quelque chose qui frappe énormément. Alors c'est sûr qu'on ne va pas se limiter, et ça serait dommage de se limiter à une lecture juste là, hein, comme si c'était une aventure, parce qu'il y a énormément d'enseignements dans ce passage, et c'est vraiment important. Hein, il y a trop de choses, même pour une soirée. Donc j'espère que vous aurez envie de le décortiquer quand vous serez chez vous, hein, et de rechercher vraiment tous les enseignements, toutes les applications que nous trouvons, hein, nous, hein, chrétiens aujourd'hui, tous ces enseignements qui sont contenus là dans cette aventure, hein, finalement, que nous venons de lire. Alors juste, on se rappelle, hein, que c'est donc la sécheresse, la famine, automatiquement, avec une détresse qui est importante. Vous vous rappelez depuis combien de temps la sécheresse sévit ? un peu plus, c'est 3 ans et demi.
Alors,
pour employer un langage biblique, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les mathématiciens savent tout de suite qu'on parle de 3 ans et demi. Voilà. 3 ans et demi sans pluie, de sécheresse. Et on se rappelle que lorsque Élie a rencontré le roi Achab, la première chose que celui-ci a pu lui dire, on l'a vu la semaine dernière, hein, te voilà toi qui causes ce trouble en Israël. Donc, sans même se rendre compte que Élie, c'était simplement le doigt qui montrait au roi et au peuple ce qui n'allait pas. Et voilà, et il se contentait d'accuser simplement Élie. On se rappelle aussi que Élie s'était présenté, alors il se présente dans ce chapitre, comme celui qui se tient devant l'Éternel. Lorsque Élie apparaît au chapitre 17, donc d'un seul coup, il va se présenter et il y a une version, alors c'est pas la version d'Arby, c'est je pense la version Martin. je me tiens devant l'Éternel. Voilà. Je ne me rappelle pas bien. L'Éternel devant qui je me tiens. Voilà. L'Éternel devant qui je me tiens. Voilà comment se présente Élie. Et ça déjà, on avait vu, c'était un enseignement très très important et qu'il est bon de se rappeler, puisque on va le voir, hein, cela conditionne tout ce qui se passe là et toute l'attitude d'Élie. Il est celui qui se tient devant l'Éternel. Et parce qu'il se tient devant l'Éternel, il est celui aussi qui obéit à la parole de l'Éternel. Et quand quand Dieu a dit à Élie, va au torrent, hein, je vais te nourrir là, hein, Élie est allé. Il lui a dit, c'est là au torrent que je vais te nourrir. Après, va à Sarepta, Élie est allé, il a dit, c'est là à Sarepta que j'ai ordonné à une dame veuve de te nourrir. Et puis, il va lui dire ici, au début du chapitre, va à la rencontre du roi Achab, Élie y va. Et puis ici, on voit le rendez-vous que Dieu va donner au Carmel. Un petit rappel aussi, on voit, ce qui est frappant, l'assurance d'Élie face au roi Achab, avec pourtant une opposition, un danger vraiment très très important, puisque Achab et Jézabel ont quand même déjà éliminé une grande partie des prophètes de l'Éternel. Et malgré cela, avec assurance, sans crainte, Élie se présente devant Achab. Et on voit ici aussi toute l'autorité d'Élie. Déjà, le roi a obéi, hein, sans rien dire. Et puis on voit aussi que tout ce qu'Élie demande, eh bien, on lui obéit. Et là aussi, c'est une leçon. Parce que souvent, on est un petit peu tremblant. Mais si on se tient devant l'Éternel, il est celui qui vraiment agit et qui nous permet d'avoir cette assurance aussi. Parce que c'est lui qui nous donne cette assurance. Et de la même façon que Élie se tenait devant l'Éternel, et bien nous aussi, nous avons cette libre entrée devant notre Père, cette libre accès devant notre Père, nous pouvons nous tenir devant lui par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée, nous dit le Nouveau Testament. Alors juste le Carmel, vous voyez, j'ai fait une des diapositives et j'ai passé du temps pour que vous ayez un dégradé de jaune. Donc j'espère que vous appréciez.
Comment ? C'est les couleurs de l'Ukraine.
Voilà, exactement. Bon, c'est l'appareil qui commence à... je sais pas, j'espère que tu tiendras la soirée. Mais juste pour vous montrer... qu'est-ce qui se passe ? Voilà, un petit... tu veux donc celui-là ? J'espère. Ah, mais il y a l'appareil.
Il y a l'appareil aussi qui fait du bruit.
En plus, il y a UGT. C'est mieux. C'est mieux. Sinon, j'aurais pu prendre le micro, peut-être. J'ai pas pensé. Ok. Donc, voilà, juste pour vous montrer le Mont Carmel. Il n'y a pas un truc ici. Donc, pour montrer le Mont Carmel, alors c'est une chaîne de montagnes, environ 500 et quelques mètres d'altitude, donc c'est pas très très élevé. C'est donc, ça se jette dans la mer, c'est pour ça que le serviteur d'Élie, en montant, pouvait voir la mer et pouvait voir donc ce qui se passait, ce qui arrivait au niveau de la mer. Le Carmel, ça veut dire la. Alors pourquoi ça ne marche pas mon truc? Carmel, ça veut dire la vigne de Dieu. La vigne de Dieu. D'autres traductions vont parler de verger ou de terre fertile, mais vraiment le vrai nom, c'est la vigne de Dieu. Et c'est un coin qui est vraiment verdoyant, mais on peut penser que du temps d'Élie, eh bien, ce n'était pas le cas, bien sûr, avec 3 ans et demi de sécheresse, c'était plus trop le cas. Et il paraît qu'il y a un grand plateau qui vraiment se prête tout à fait à la scène que nous avons ici, avec une foule qui peut comme cela se tenir, voir ce qui se passe et entendre aussi le prophète qui parle. Alors, comme le texte est très très riche, on va le prendre là verset par verset, et bien entendu vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez pour apporter des précisions. Mais voilà, on va commencer donc verset par verset, le verset 21. Alors oui, là j'avais mis des photos. Oui, bon, ça c'est quand même... Hein, ça, cette vue côté est, pardon. Voilà. Non, pardon, côté sud. Ah, je me rappelle. C'est l'opposé à la mer.
Oui.
Donc, l'est. L'est, voilà. Donc voilà, et on voit que c'est quand même très très abrupt. Apparemment, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu aller là-bas, mais apparemment, toi tu l'as vu, non, c'est un endroit magnifique. Qui actuellement, c'est plus vide. Hein. Il y a énormément de religions qui viennent là. C'est un lieu de pèlerinage pour plusieurs religions. Non, le Carmel. Voilà. Alors, donc Élie va attaquer directement. Hein. On voit que vraiment il a pas de. Il n'y a rien. Hein. Il commence au verset 21 et il va poser une question. Et c'est une question qui est très très importante. Je vous relis le verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand vous boiterez des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Et on voit que si le peuple ne répond rien, et s'il y pose cette question, c'est qu'il y a vraiment une ambiguïté. Et le peuple, il est d'un côté, hein, tantôt avec l'Éternel, tantôt avec les Baals, et vraiment, il est totalement indécis. Il n'y a aucune, vraiment... on parle beaucoup de résilience, c'est le mot à la mode actuellement. Hein. Là, c'est pas le cas pour le peuple. Hein. Et donc voilà, combien de temps sauterez-vous des deux côtés, pour ceux qui ont la traduction sommaire, je crois, ou aurez-vous un comportement boiteux, hein. Le peuple hésite, hein. Le peuple hésite, un petit moment devant Dieu, un petit moment devant Baal, absolument incapable de vraiment faire un choix concret. Et pourtant, le peuple sait exactement, hein, quelle est l'histoire d'Israël. Il a entendu cette anecdote avec la traversée de la mer Rouge. Il sait qu'il y a eu la conquête sous Josué. Et pourtant, eh bien, le peuple est là dans l'incertitude, avec un comportement boiteux. Avec tout ce qu'il a vu, hein, malgré tout, il y a toujours ce comportement. C'est vraiment étonnant. Hein, c'est vraiment étonnant. La sécheresse. Le roi a accusé Élie. Le peuple sait très bien que Élie a annoncé cette sécheresse. Mais pourtant, ils ont toujours cette indécision. Dans l'évangile, on voit que à un moment, Jésus a fait des miracles, et il nous a dit que malgré tous les miracles qu'il faisait, il ne croyait point encore en lui. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici, parce que Dieu s'adresse à eux par le peuple, mais le peuple est toujours dans l'hésitation, dans l'indécision. Il est soit avec les faux dieux, les Astartés, soit avec l'Éternel. J'avais entendu un message et le prédicateur avait donné l'exemple de l'âne de Buridan qui meurt de faim et de soif. Et il est entre un tas de foin et un seau d'eau, et puis il reste là, hein, et il va mourir parce qu'il ne sait pas de quel côté. Il n'arrive pas à choisir si c'est l'eau d'abord ou si c'est le foin d'abord. Et là, le peuple, il est un petit peu... Il est un petit peu comme cela. Et il nous a dit donc que le peuple ne répondit rien lorsque Élie pose la question. On peut se dire, oui, mais le peuple, finalement, il est neutre. Sauf que dans la parole de Dieu, la neutralité, ça n'existe pas. Jésus va dire, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, eh bien, il disperse. Et c'est vraiment ce qui se passe ici. Pardon ? Ah, voilà, donc ça c'est dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, où l'Éternel va dire, eh bien, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, c'est-à-dire choisir. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et puis vous connaissez aussi cette parole de Jésus, nul ne peut servir de maître, car il aimera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et le peuple ne répondit rien, il ne répond pas un seul mot, et on peut penser que c'est quelque chose qui a dû quand même affecter Élie. Et l'enseignement que nous avons aussi à ce sujet-là, toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, montre que l'homme doit faire un choix. Dès le jardin d'Éden, Adam et Ève devaient choisir soit ils donnaient leur confiance dans la parole de Dieu, soit ce n'était pas le cas. Et de tous les côtés, du début jusqu'à la fin, on voit qu'il y a ce choix qui est mis devant l'être humain. Dans Josué, au chapitre 24 et au verset 15, là, je vous l'ai mis, je ne vous ai pas mis toutes les références pour qu'on puisse quand même chercher aussi. Mais il y a Josué qui pose cette question, qui dit ceci, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc on est la réponse du peuple, loin de nous, la pensée de ne pas servir l'Éternel, de nous éloigner de lui. Et puis on voit ensuite que tout le livre des Juges, finalement, c'est la même chose, c'est l'indécision. À un moment, on est avec les Baals, à un autre moment, on est avec les Baals. Donc voilà ce qui se passe. Et pourtant, l'être humain a un choix à faire, soit le chemin large, qui mène à la perdition, soit le chemin étroit, qui mène à la vie. Et c'est vrai que c'est valable pour la conversion, il faut choisir. Mais c'est valable aussi pour la sanctification, pour la marche du chrétien. Parce que on peut avoir une vie chrétienne le dimanche et puis la semaine avoir un comportement tout autre. Finalement, on coche des deux pieds. On peut parler, lire la parole de Dieu, on peut même l'expliquer, et puis après on peut vivre en l'oubliant, comme celui qui regarde son visage dans un miroir et qui s'en va, ne se rappelant plus comment il est. Là aussi, on boite des deux côtés. On peut prier, Seigneur, reviens bientôt. On veut hâter la venue du Seigneur et puis vivre comme si on était finalement de cette terre, uniquement de cette terre. Là aussi, on boite de deux côtés. Et juste au niveau de la conversion, alors là aussi, on pourrait passer du temps, mais c'est pas non plus le sujet. Mais pour montrer que il y a la part de Dieu, mais il y a aussi le choix de l'homme. Si on prend donc dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, Paul va parler à Timothée donc, et il va dire il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Et on pourrait dire, mais voilà, c'est Dieu qui décide, donc l'homme n'a pas de choix à faire. Oui, mais si on va ensuite dans Romains, au chapitre 2, il y a cette parole de Paul qui dit, mais la patience de Dieu, sa longanimité, eh bien la bonté de Dieu, te pousse à la repentance. Et donc tu es inexcusable si tu ne vas pas vers cette repentance, puisque Dieu te pousse et fait tout pour que tu ailles vers cette repentance. C'est donc ton choix. Et pour la marche du chrétien, eh bien c'est aussi la même chose. Nous avons, il y a ce verset qui dit que Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est peut-être pas le bon ordre, mais Jésus-Christ a été fait pour nous, sanctification. Donc voilà, tranquille, je peux me reposer. Et si on prend aussi dans Philippiens, on voit qu'il y a ce verset que Paul va dire, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Bon, s'il ne produit pas le vouloir en moi, je ne peux rien faire. Voilà, sauf que juste avant, Paul va dire, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Donc, travaillez à votre salut, dans le sens que vous avez hein, le salut. Et maintenant, eh bien, cela, il faut, c'est votre responsabilité pour eh bien, le mettre en avant. Et nous avons vraiment notre, notre part aussi, notre choix, et on ne peut pas boiter des deux côtés. Et on doit être attentif à cela. Et juste aussi, un autre verset que je voudrais vous donner, dans Hébreu, au chapitre 2, versets 1 et 2, au chapitre 12, merci, versets 1 et 2. Si quelqu'un là, il veut le lire. Donc là aussi, courons avec persévérance. Dans la carrière, le mot carrière, c'est la même racine que agonie. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément facile. On a donc un effort à faire. On a un choix là aussi, hein, pour ne pas boiter des deux côtés, à vraiment rentrer dans cette course, dans cette carrière. Mais il y a la clé qui nous est donnée. Ayant les regards sur Jésus, parce que c'est lui qui suscite la foi. Hein. Donc finalement, le choix qui est devant nous, c'est un choix qui n'est pas difficile. Pour pouvoir rentrer dans cette carrière, pour pouvoir rentrer dans cette course, et bien notre responsabilité, c'est de regarder au Christ. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Et voilà, c'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et on aurait même pu lire le verset 3 qui nous a dit, considérez celui qui, Jésus-Christ. Voilà donc pour ne pas, en tant que chrétien aussi dans notre marche spirituelle, boiter de nos côtés, eh bien nous avons notre part, notre choix et notre responsabilité, eh bien c'est de regarder la Christ. Et finalement, on revient à ce que, à l'exemple d'Élie, hein, l'Éternel devant qui je me tiens. Et nous voulons aussi nous tenir devant l'Éternel et regarder la Christ. Voilà pour cette question, pour ce verset 21. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, apporter une précision?
Je pense que c'est ça aussi qui a monté le peuple, c'est ça qu'il leur rendait bien. Parce qu'il y avait un poids saisi, mais je pense qu'ils étaient pas prêts à payer tout ça. Parce que bon, ils étaient là devant Acab et Jézabel. Le monde tremblait devant Jézabel, devant Acab. Et donc dire, oui, nous sommes pour l'Éternel. Ah oui, mais il y a Acab et Jézabel. Donc il y a quand même la crainte de l'homme, il y avait un coût à payer. Et ils n'étaient pas prêts à payer ce coût. Et je pense que c'est comme tu disais, rien n'est facile. Il y a la part, nous devons choisir la part, mais ça peut nous conduire loin, ça peut nous coûter vraiment beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix, à accepter d'aller jusqu'au bout devant une Jézabel et devant un Acab qui est là, qui nous regarde, pas évident.
Alors, on va passer... Alors, j'ai mis l'agitation des faussaires, hein, en fait, du verset 22 au verset 29. Donc, toute cette effervescence qui règne lorsque Élie demande donc au prophète de Baal de prendre, allez-y en premier, donc il leur donne finalement toutes les clés pour ne pas, après qu'on puisse dire, oui mais toi tu as choisi le meilleur bois qui était bien sec, tu as choisi le meilleur taureau, etc. Non, ils ont vraiment le choix et ils agissent en premier. Alors, je ne suis pas certain, donc, je ne pense pas que Jézabel était présente, et au départ, lorsque Élie a demandé à Acab de faire venir les prophètes, c'était les prophètes donc de Baal et d'Astarté. Mais là, on a l'impression que ce ne sont que ceux de Baal. Bon, ce n'est pas très très important, en tout cas, ils sont déjà 450, c'est quand même pas mal. Alors qu'Élie est seul avec éventuellement son serviteur. Alors, juste un petit peu, Baal, donc on en avait un petit peu parlé, mais très très rapidement, je ne sais pas, bon, c'est quand même une idole qui a été vraiment très très, très, très importante dans cette région et dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais très rapidement, Baal, il a deux frères. Il y en a un qu'il va tuer parce que c'était celui qui devait succéder au père. Et l'autre frère s'appelle Mo, et c'est la bataille entre les deux. Et comme Baal prend l'ascendant, Mo va partir en enfer. Et puis il va revenir très très souvent, et il y aura donc toujours la guerre entre Baal et Mo. Baal, c'est donc la fécondité, le dieu de l'orage, de la pluie, c'est le secours des agriculteurs, des éleveurs, des marins aussi. Et Mo, eh bien, lui, il cherche qu'à détruire. Et lorsqu'il y a de la sécheresse, eh bien, ça veut dire que c'est Mo qui gagne. Et lorsqu'il y a la pluie, ça veut dire que c'est Baal. Et par exemple, en 2015, c'était quand il y a eu les problèmes là, en Syrie avec l'État islamique, il y a eu des saccages de monuments historiques, et notamment des temples de Baal ont été détruits. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Et donc c'était vraiment une religion qui était très très importante. Et, en plus, la parole de Dieu donc aussi va désigner Baal, et des fois au pluriel, d'autres idoles et d'autres dieux aussi. Et dans Deux Rois, je me le suis marqué par là, oui, dans Deux Rois, par exemple, il est question de Baal Zébul. Deux Rois, chapitre 1, verset 3. Baal Zébul, c'était le maître, puisque Baal, ça veut dire maître, le maître des mouches. Hein, maître des mouches ou seigneur des mouches. Et ça a donné après Belzébul. Donc, que l'on va retrouver notamment dans les paroles de Jésus aussi, puisqu'il a été traité de c'est par l'esprit de Belzébul qu'il chasse le démon, etc. Voilà. Mais juste quelque chose là que j'ai souligné dans la version d'Arby. Donc il y a toute cette agitation, et puis, eh bien, quel est le résultat? Rien. Ni voix, ni signe, ni réponse, rien du tout. Personne qui fit attention. Et vraiment, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de tellement triste. Toute cette agitation, mais personne ne prête attention à ce qui se passe. Et c'est un petit peu vraiment l'image des dieux de ce monde en qui beaucoup vont placer leur confiance. On est un petit peu souvent comme des bébés. Les bébés, ils ont besoin d'attention, hein, de parents qui sont vraiment sensibles au moindre cri. Hein, on le vit avec notre fille actuellement, hein, voilà, et on essaie de la calmer un petit peu parce qu'elle est toujours inquiète, mais c'est toujours, voilà, c'est l'attention, toujours, c'est vraiment les parents qui sont attentifs. Mais là, rien du tout. Personne ne fait attention. En 2 Rois, chapitre 18, cette question est posée au roi Ézéchias. En qui donc as-tu placé ta confiance? En qui donc as-tu placé ta confiance? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, qui est comme un roseau cassé, qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. Et en qui avons-nous placé notre confiance? Et c'est tellement triste de placer notre confiance dans des choses qui de toute façon vont passer. Moi, je me... Bon, le temps passe vite, donc je ne vais pas vous le raconter, mais on peut placer notre confiance dans quoi? Dans la santé. Quelqu'un disait, oh, moi, je ne suis jamais malade. Et la personne en face lui a dit, mais sois patient, tu vas voir, ça va arriver. On peut la placer aussi dans les richesses. Et puis les richesses, elles passent aussi, on le sait. On peut placer la confiance dans ses capacités, dans ses compétences. Mais là aussi, on voit que ceux qui, hein, beaucoup aussi, eh bien, en déchantent également de cela. En quoi, en qui avons-nous placé notre confiance? Est-ce que vous savez qu'on peut commettre des doubles péchés? En Jérémie chapitre 2, verset 13, il y a cette parole: « Mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça, c'est la deuxième partie du péché. Notre seule source d'eau vive, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Et placer notre confiance en quoi que ce soit d'autre qu'en Christ, eh bien, finalement, ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est dérisoire. Et c'est vrai que si aujourd'hui il n'y a plus, hein, des personnes qui vont adorer les Baals, les Astartés, etc., malheureusement, on peut, de façon vraiment, des fois même, de façon qui peut passer inaperçue, on peut s'appuyer sur autre chose que sur le Christ. Et nous avons à être vigilants et à revenir toujours au pied du Seigneur, dire comme David: Seigneur, hein, Sonde-moi, vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc voilà pour cette partie-là, donc, où on voit toute cette agitation des faux prophètes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à vous voulez rajouter.
En Afrique, c'est assez courant. Hein. Les scènes qui sont décrites là, ouais. En Afrique, c'est pas peut-être en Europe, en Afrique, c'est très courant de voir des féticheurs qui dansent devant un feu, qui sautent, qui se poignardent de la chair pour faire venir l'esprit ou pour envoyer une malédiction à telle ou telle personne. Mm-hmm. En Afrique, moi, de mes propres yeux, je l'ai vu. Hein. Ouais.
Oui, et là aussi, bon, on n'a pas trop le temps, mais rien que ça, hein, se faire des lacérations, mais la parole de Dieu interdisée aussi, la
scarification. Hein.
Alors, le verset 30, donc Élie, hein, va donc demander au peuple de s'approcher, et il va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il va prendre 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, et il va, avec cela, bâtir un autel. Donc, c'est pas que le verset 30, je vais m'en changer, pardon.
31.
Oui, voilà, 30, 31, voilà, il y a quelques petites erreurs, mais vous avez rectifié. Alors, là aussi, quelque chose d'important, Élie, ce qu'il va faire, là aussi, Jean, tu disais que, bon, le peuple avait peur, Élie, lui, c'est pas son cas. Parce qu'il aurait pu se contenter de faire un autel avec 10 pierres, puisque les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël.
12 tribus.
Il était devant Akab, le royaume du Nord, avec simplement 10 tribus, et les autres, c'était souvent, hein, en grande partie, ça a été la bataille, hein, c'était les ennemis, très souvent, hein, malheureusement. Et là, Élie, lui, hein, il n'a pas peur, il a vraiment cette assurance. Voilà. Mais on voit que, en fait, c'est vraiment aussi, voilà, l'unité d'Israël qui est symboliquement restaurée ici. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. La parole de Dieu nous montre l'importance de l'unité entre enfants de Dieu. Le plus beau des témoignages, hein, qu'est-ce que c'est le plus beau des témoignages? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns
d'un pour les autres.
Donc, pour le peuple, la bénédiction, elle passait aussi par cette unité. Et nous, c'est vraiment tellement important aussi, cet amour, cette communion fraternelle que nous pouvons avoir entre nous avec le ciment du Saint-Esprit qui est là pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, je vous l'ai écrit, c'est bien. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et c'est ce qu'il y a de beau, c'est que quand on voit la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'être dans l'uniformité, hein, non, c'est pas du tout ça. Il y a une diversité, mais avec une communion. Et c'est ça qui est merveilleux. Et des fois, on peut avoir des points de vue différents, mais comme il y a cette communion, eh bien, il n'y a pas. Voilà, on marche tous d'un même pas. On marche tous d'un même pas. Et c'est le plus beau des témoignages. On passe aux versets qui suivent. Verset 33 à 35. Sauf peut-être que vous avez quelque chose à rajouter sur cet autel qui est rebâti. Alors, il y a quelque chose d'important ici. Hein, le verset donc 33 à 35, on voit donc tout le travail d'Élie. Alors, je pense qu'heureusement, il était aidé par son serviteur. Mais bon, faire une tranchée comme il a fait, avec la terre bien dure puisqu'il n'avait pas plu, c'était pas une petite affaire. Hein. Je comprends que les faux prophètes ont toute une journée été dans l'agitation jusqu'à l'offrande du soir. Et à mon avis, Élie, c'était le lendemain, hein, je vois, puisqu'il nous a dit qu'ensuite, c'est au moment de l'offrande du soir que le feu est tombé sur l'Holocauste. Donc voilà, ça a vraiment duré, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire pour Élie, même s'il avait un petit peu d'aide. Et on voit tout ce qu'il va faire. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il va demander. Le bien le plus précieux d'alors, c'était l'eau. En fait, l'eau manquait, la sécheresse était là, ils étaient dans la panade à cause du manque d'eau, et quelle idée saugrenue que Élie va avoir de leur demander de prendre des cruches, de les remplir. Alors, je pense que si vous avez quelqu'un une version Sommer, ça devait faire 35 litres, peut-être, quelque chose comme ça, à chaque fois. Enfin, c'est... Enfin, c'était assez important. Il va leur dire donc, prenez 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Une quinzaine de litres. Donc c'était quand même pas neutre, hein, c'était quand même pas mal. Hein. Mmh. Mais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis ils devaient se dire, c'est bon, jusqu'à quand ça va continuer. Mmh. En fait, ce qu'ils avaient de plus précieux, Élie le leur demande. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Parce que souvent, on va aussi nous venir et penser venir avec nos propres forces, nos propres capacités. Et ce que Dieu nous dit, c'est finalement tout ce que tu as, hein, que tu penses, toi, avoir d'important, tout ça, c'est rien. Et tout ça, il faut que tu le laisses. Il faut que tu sois totalement vidé pour que moi, eh bien, finalement, je puisse te remplir. Et c'est ce que Dieu veut aussi, c'est la conversion, bien sûr, mais c'est aussi la sanctification. Et jour après jour, eh bien, vraiment être conscient que c'est Dieu qui donne toute capacité et qu'on n'a pas à faire prévaloir quoi que ce soit qui pourrait venir de nous. Leur bien le plus précieux, eh bien, il faut qu'il donne. Et là, on revient un petit peu à l'exemple de la veuve de Sarepta, qui a dû d'abord faire un gâteau avec le peu qu'elle avait pour Dieu, hein, et puis même son fils lui a été demandé. Enfin, tout lui a été demandé. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que notre Dieu, s'il nous demande cela, eh bien, il nous donne beaucoup plus. Et finalement, nos forces personnelles, c'est quelque chose qui est encombrant pour nous. C'est un handicap. Mais si on veut vraiment tout abandonner au pied de la croix, alors vraiment, on est totalement transformé parce que c'est Dieu qui est celui qui nous remplit. J'avais aussi lu un autre verset, mais je ne m'en rappelle plus.
Il y a un autre défi aussi.
Oui.
C'est qu'il arrose le bois.
Oui.
Pour mettre le feu, c'est difficile.
Voilà.
Pour ne pas dire qu'il a triché.
Voilà, oui.
Parce qu'un bois mouillé, ben, c'est beaucoup plus difficile à mettre le feu. Hein.
C'est sûr qu'il a fait ça pour que ça soit beaucoup plus parlant aussi, hein, évidemment, hein, voilà, hein, pour qu'il n'y ait aucune possibilité de tordre un petit peu ce qui s'était passé. Mais voilà, oui, dans 2 Corinthiens 12-10, Paul va dire, finalement, je me plais dans mes faiblesses, parce que quand je suis faible...
C'est là que je suis fort.
Quand je ne compte plus sur mes propres forces, sur mes propres capacités, quand je donne tout au pied de la croix, eh bien c'est alors que Dieu peut me remplir, et c'est alors que je suis fort. Alors, on va passer au verset 36. Oui. Donc, Élie va prier. Élie va prier. Et Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc, le but, l'objectif de la prière d'Élie, c'est que le peuple sache, comprenne. Et on retrouve un petit peu cette parole dans l'évangile de Jean, ces choses ont été écrites pour que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous ayez ainsi la vie éternelle. Je paraphrase, mais voilà. Là aussi, voilà, que vous sachiez. Et également, Élie fait aussi mention de sa position. Il est là sur l'ordre de l'Éternel. Il n'est pas venu par lui-même, c'est parce qu'il obéit toujours à l'Éternel. Et puis, alors, ma version, c'est une version seconde. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, j'ai, je pense que vous avez quelque toute chose, la même chose, pardon, que... Alors, où est-ce que c'est le verset 37, pardon.
37, oui.
Voilà. Que l'on sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur. Et la version Darby est beaucoup plus proche, hein, beaucoup plus fidèle. C'est toi qui as ramené leur cœur. Et là, c'est vraiment étonnant. Hein. C'est toi qui as ramené leur cœur. Mais ils sont toujours dans l'indécision. Alors, pourquoi Élie va prier pour que le peuple sache qu'il a ramené leur cœur. C'est pourtant quelque chose qui est fait. Et ça nous montre qu'en fait, Dieu accomplit toute chose à la perfection. Et c'est ensuite l'homme qui, par son choix, rentre dans l'œuvre de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était en Christ, réconciliant. La réconciliation est faite. Il faut après que chacun rentre dans cette œuvre et l'accepte. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est réconcilié, hein, même si ceux qui ne veulent pas ce choix-là. Non, ce n'est pas du tout cela. Mais l'œuvre est accomplie, tout est accompli, et il faut simplement rentrer dans cette œuvre-là. Il y a cette illustration que Jésus va dire à cet homme qui prépare un repas, qui envoie ses serviteurs pour aller chercher les convives. Venez, car tout est déjà prêt. Il n'est pas question de dire, mais qu'est-ce que j'amène, le dessert et une bonne bouteille. Non, non, tout est déjà prêt, donc venez. Et ils refusent. Ils font le choix de refuser. Mais tout est déjà prêt. Et là aussi, voilà, tu as ramené leur cœur. Il suffit au peuple de rentrer dans cette œuvre que Dieu a accomplie. Et c'est la prière d'Élie aussi. Alors, on passe...
C'est intéressant quand même que dans la démarche d'Élie, qui ne cherche pas juste à démontrer que l'Éternel est grand par rapport au Baal ou juste pour faire le buzz, mais il vise vraiment le cœur en fait de, ouais. Il veut que les gens soient sauvés en fait, il veut pas juste montrer que ouais. Qu'on a un grand Dieu et c'est fini quoi.
Ça c'est important ce que tu dis, parce que très très souvent on va se focaliser sur les miracles. C'est vraiment simplement un vecteur pour nous amener à ce qui est vraiment le plus important, c'est-à-dire le cœur qui change. Alors versets 38 et 39, donc le feu va tomber sur l'autel et consumer l'holocauste, le bois, les pierres et même l'autel. Et même les pierres et l'autel. En fait, au départ, qui était avec toute l'eau aussi. Mais au départ, finalement, les deux autels étaient, les deux holocaustes étaient comparables. Comment savoir quel était le véritable et la contrefaçon? Mais c'est simplement lorsque le feu est tombé. Et oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important, et je vous encourage, on n'aura pas le temps de trop s'y attarder, je vous encourage à vraiment étudier cela aussi. L'Holocauste, si on prend Lévitique, on voit que c'est donc ce qui était offert pour... alors, je vais quand même le lire, Lévitique chapitre 1. Ça sera préférable. Si quelqu'un là, il peut le dire. Hein. Verset 3, simplement, juste le verset 3.
Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur.
Voilà, donc l'holocauste sera offert pour obtenir la faveur de l'Éternel, et c'est un terme aussi qui veut dire couvrir également. Voilà. C'était la victime qui était présentée à Dieu pour le peuple, et le feu va tomber là-dessus. Et le feu, c'est donc symbolise aussi le jugement divin. Et ce jugement va tomber sur l'holocauste. Il va consumer l'holocauste, le bois et même les pierres. Rien ne va subsister. Il y a deux offrandes, il y a deux holocaustes, mais il y en a un seul qui est valable. Et Dieu montre ainsi qu'il n'y a qu'un holocauste qui est agréé et sur lequel le feu du jugement va tomber. Et ça déjà, c'est un enseignement. C'est simplement par l'œuvre de Christ que nous pouvons échapper au jugement. Mais il y a quelque chose qui est une belle illustration, parce que tout le peuple assiste à cela. Et tout le peuple voit l'autel avec les 12 pierres, donc qui représente ce peuple-là,
le peuple.
Cet autel qui est consumé en même temps que le bois et que le taureau, que l'holocauste.
Oui.
Et donc le jugement va tomber sur l'holocauste, va consumer les pierres aussi. Et ces pierres représentent les Israélites. Et ils voient donc le feu qui aurait dû tomber sur eux et qui tombe sur un substitut. Et c'est une merveilleuse illustration aussi de l'œuvre de Christ. La Bible nous dit en Romains 6,6 que, est-ce que je ne l'aurais pas marqué par hasard ?
Si,
non.
Si, si.
Oui.
C'est marqué,
oui. Oui, mais je ne me le suis pas mis, donc. Voilà, je me le signe ici. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne soyons plus péchés. C'est une version, je crois que c'est la version Darby. Nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Christ a été crucifié, nous étions en lui. Et donc le jugement est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, parce que nous étions en Christ. Et de même que les Israélites pouvaient assister à cela, ce jugement qui tombait hein, sur cet holocauste, cette substitution, eh bien nous aussi nous étions en Christ. Et le jugement est tombé sur lui. Et nous sommes morts avec lui. Et nous sommes ainsi libérés de l'esclavage du péché. Et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et là, c'est vraiment une belle illustration que nous avons ici aussi. On pourrait bien sûr parler du bois, de l'Holocauste, etc. Hein, mais c'est vraiment une belle illustration de l'œuvre de Christ pour nous. Et il n'y a qu'un seul autel de valeur. Le reste, c'est une contrefaçon. Et il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ. Tout le reste, hein, ce sont des contrefaçons. Alors, le temps passe très vite, donc on va avancer. Juste le verset 40. Hein. Alors, j'ai mis juste mal à l'aise. j'étais dans une librairie il y a quelques temps. Il y avait le livre là, Dieu, la science, l'épreuve, que je voulais, donc, que j'ai acheté. Et à côté, alors c'était bien parce qu'à côté, il y avait un autre livre, Grâce à la science, Dieu n'est plus nécessaire. Donc c'était quelque part hein, le contrepoids.
Le contrepoids
et je regardais ce livre et l'auteur disait que les chrétiens sont très contents qu'il y ait le Nouveau Testament hein, parce que comme ça, ça leur permet de ne pas trop parler de l'Ancien avec tous ces épisodes sanglants. Hein, et quelque part, il disait, mais les chrétiens, voilà, hein, ils ont un petit peu honte de l'Ancien Testament. Mais finalement, dire cela, hein, c'est passer à côté d'une réalité, c'est oublier que si Dieu est un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu trois fois saint. Et parce qu'il est trois fois saint, c'est aussi un Dieu qui est aussi un Dieu de justice. Et on oublie très très souvent, hein, parce qu'on minimise énormément le péché, hein, on pense que c'est toujours un petit péché véniel, hein, on oublie que c'est une offense à la sainteté de Dieu. Et que eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, on veut très très souvent eh bien, le mettre de côté. Et quelque part, quand on fait cela, si on minimise la sainteté de Dieu, on minimise aussi sa justice et on minimise aussi son amour. Et il y a un équilibre entre la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. Ils sont infinis, puisque Dieu est infini. Et de même que l'amour de Dieu dont on parle est un amour infini, mais sa sainteté aussi est infinie et sa justice également. Et la Bible dit que nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Alors, les chrétiens, pour eux, il n'y a aucune condamnation puisqu'ils sont en Jésus-Christ, et on l'a vu, hein, le jugement est tombé sur Christ à leur place. Mais nos œuvres passeront aussi, seront également jugées, et ceux qui ne veulent pas faire ce choix de Christ, eh bien, eux, ils passeront devant le tribunal de Dieu, et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, de la parole de Dieu. Et juste, je m'étais marqué Uzza, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Uzza, hein, souvent ça nous embête un petit peu, hein, lorsque les Philistins ont pris l'arche, et puis comme il y a beaucoup de difficultés, ils décident de la renvoyer. Et le peuple d'Israël va récupérer l'arche, va la mettre sur un char neuf, la faire tirer par des bœufs, et c'est la joie, la liesse, il y a vraiment énormément, une grande fête, parce qu'ils retrouvent l'arche de l'Éternel. Et lors d'un dévers du chemin, le char penche un petit peu, et Uzza, il a le bon réflexe, hein, on pourrait dire, d'attraper l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Et la colère de Dieu s'enflamme sur lui.
S'enflamme et il est mort.
Et David est irrité aussi. Oui. Et quand on lit ce passage, on pourrait être comme David, on dit, mais on ne comprend pas. Il a bien fait quand même, pourquoi l'arche tombe. Mais en fait, le peuple avait méprisé la parole de Dieu et avait oublié la sainteté de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait donné des consignes très strictes pour transporter l'arche. Il fallait que ce soit les Lévites d'abord. Après s'être purifié avec des barres spéciales qui passaient dans des anneaux, hein, et personne ne pouvait toucher l'arche. Et parce que c'était vraiment, elle représentait la sainteté de Dieu. Et eh bien, Uzza et tout le peuple avec lui avaient oublié cela. Et finalement, on a vraiment intérêt à considérer la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Et ça nous fait aussi, ça nous montre combien ce tasson en amour est un amour merveilleux. Parce que si on minimise la sainteté de Dieu, eh bien, on n'a pas cette appréciation juste de son merveilleux amour pour nous.
Oui. Il y a aussi que, à l'époque, ils vivaient sous la loi de l'Ancien Testament. Et Jésus est venu après pour accomplir la loi et nous a aussi, dans un tel accomplissement que nous a demandé d'aider nos ennemis. mais à l'époque, la loi, c'était aussi de venger ceux qui... de punir et de venger aussi, tous les prophètes de Dieu qui avaient été exécutés.
Ouais.
Et par cette manière, il rend justice, il venge aussi tous ces prophètes qui ont été là. Et ils étaient dans la loi du...
Ouais. Et puis il y a quelque chose d'important quand on lit la parole de Dieu, c'est de toujours avoir une vision de l'ensemble de la parole de Dieu. Et on se rend bien compte que c'est vrai qu'il y a des vies qui sont vouées par interdit, par exemple, etc. Donc des choses qui peut-être peuvent nous déranger. Mais si on regarde l'ensemble de la parole de Dieu, on voit que Dieu est celui qui parle aussi. Et qui s'adresse à chacun. Puisque, par exemple, Jéricho a été voué par interdit, mais Dieu avait parlé. Puisque les gens étaient dans la terreur en pensant à ce qui allait leur arriver. Et la prostituée Rahab, elle, eh bien, elle a été sauvée. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi. Ninive aussi, c'est pareil. Ninive également, eh bien, a pu se repentir, même si ensuite, s'étant détournée de Dieu, Ninive a été condamnée. Et on voit vraiment que Dieu est celui qui parle. Et il parle, et si l'homme n'y prend pas garde, comme dit Job, eh bien, à un moment, la justice de Dieu, elle est là. De toute façon. Et sa justice, encore aujourd'hui, on sait que, eh bien, elle va rentrer en action. Et bon, le jugement, le tribunal de Christ, c'est une réalité.
Et en fait, le Dieu d'amour du Nouveau Testament, c'est aussi un Dieu du jugement dans le Nouveau Testament. Parce que rappelons-nous que Ananias et Saphira, ils ont été frappés, et c'est quand même le Nouveau Testament.
Bien sûr.
Il y a pas mal de choses comme ça, même dans le Nouveau Testament, que, malgré le fait que c'est vrai, l'amour de Dieu se révèle beaucoup plus dans le Nouveau Testament, mais Dieu est le même, c'est toujours le Dieu saint, et qui punit même jusqu'à la mort.
C'est ça.
Et il y a des exemples, Ananias et Saphira, il y a bien d'autres, où vraiment on voit que c'est ceux qui disent, oui, mais bon, ça c'est... Il faut avoir honte de l'Ancien Testament parce que c'est sanguinaire, c'est pas le Dieu. Mais non, mais pas du tout. C'est le même Dieu.
Oui. Et il éclaire le Nouveau Testament. Hein, voilà. Ouais.
Dans mes notes ici, ils disent que dans Deutéronome 13, versets 1 à 5, Dieu ordonnait qu'on juge les faux prophètes, enfin qu'on lapide ou qu'on masse, enfin qu'on tue les faux prophètes. Alors, en fait, ils ont fait qu'obéir, enfin en tout cas Élie, il a fait qu'obéir la loi en fait en massacrant ces prophètes, ces faux prophètes en fait.
C'est ça. Alors on va terminer, c'est l'heure, mais on va quand même terminer. Juste le verset 41. Bon, on peut se dire il est un petit peu gonflé à Tab. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Alors, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, hein, et puis lui, il va dire, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Donc, voilà, d'où il sort ce bruit. Et on peut se dire, bon, est-ce qu'il exagère? Finalement, non, hein, c'est parce que c'est la foi. Hein, c'est la foi qui lui fait dire cela. Et c'est vraiment en rapport avec le reste donc du chapitre, où on voit, et finalement, la partie la plus importante, vraiment, Élie, l'homme de prière. Élie, l'homme de prière. Élie va dire à Akab, va te réjouir, et puis lui il se met à part et il va prier un petit peu, hein, hors de toute la multitude, du bruit, de l'agitation. Il se met à part pour prier. Élie, qui était un homme de la même nature que nous et qui passait vraiment du temps dans la prière. Et c'est un petit peu comme quand vous recevez un coup de fil, si vous êtes dans du brouhaha, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous sortez de la pièce pour pouvoir bien vous concentrer sur ce qui est dit. Hein? Et lui, vraiment, il se met à part. On voit Jésus aussi, Jésus qui va se mettre à part sur une montagne et qui va passer toute la nuit en prière. Et le chapitre de Jacques qui nous parle de cela nous dit, il va prier avec instance. Élie va prier avec instance. Et ce mot qui est traduit par instance, c'est le même que nous trouvons justement pour signifier la prière de Jésus lorsqu'il est sur la montagne et qu'il passe la nuit en prière. C'est donc une prière qui vraiment va insister. C'est une prière fervente, vraiment du temps qui est passé dans la prière. Et quelqu'un disait, alors je crois que c'est, je ne me rappelle plus qui c'est qui disait ça, mais c'est... Urgent, je crois qu'il disait que en fait c'est plus facile de, on en a parlé dimanche, hein, de parler une heure aux hommes et 10 minutes à Dieu, mais c'est plus important finalement de parler une heure à Dieu et simplement 10 minutes aux hommes. C'est l'épisode du cheval. Hein. Déjà, je me suis demandé, 5 minutes pour avoir un cheval, et pour avoir une deux chevaux, c'est 10 minutes. Hein. Avec le siège.
Même la selle, parce qu'elle était avec la selle.
Combien c'était important, vraiment, et combien on a vraiment à réfléchir à cela. Notre vie de prière, malheureusement, et je le dis pour moi d'abord, elle est souvent très très pauvre, alors que c'est vraiment la base. Et on voit, si on ne devait retenir qu'une chose de ce chapitre, c'est vraiment de voir Élie dans la prière. Et c'est ce qui change tout. Et c'est vraiment l'exemple prioritaire pour chacun d'entre nous. Et puis le verset 46, la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Alors j'ai regardé, c'est environ 30 km. Hein, c'est pas mal, hein, sous la pluie en plus. Hein. Alors 30 km donc, pour Benjamin par exemple, c'est rien du tout. Mais sous la pluie et à la vitesse d'un char tiré par des chevaux, déjà là ça commence à être pas mal. Hein. Alors c'était peut-être un sportif, Élie, on sait pas trop, mais de toute façon c'est miraculeux. Et ça aussi, alors il y a plusieurs enseignements. Déjà, ça nous montre qu'Élie, il voulait démontrer à Akab qu'il ne recherchait pas la royauté. Parce que là, il se mettait dans l'attitude des coureurs qui étaient devant les chars des personnes importantes en Orient pour quelque part les honorer. Mais ça nous montre aussi qu'Élie fait quelque chose qui le dépasse, qui est hors de ses capacités. Et là encore, un enseignement. Nous avons sans doute des faibles capacités. Mais si nous rentrons dans l'œuvre que le Seigneur a préparée pour nous, c'est lui qui, hein, quelqu'un a dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est lui qui nous permet d'agir et de rentrer dans cette volonté et d'accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir, comme Élie a pu le faire. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Désolé, j'ai un petit peu été vite à la fin. Vraiment, je vous encourage à regarder à nouveau ce passage-là. Et il y a vraiment des enseignements qui sont absolument merveilleux pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Alors, dans un mois, je crois, la prochaine étude biblique, ça sera donc sur Élie, qui là est un petit peu dans la dépression. Ce sera Jean qui va.
Vous conduirez dans la dépression. On sera tous déprimés.
Quelqu'un veut terminer par la prière.
C'est-à-dire, il y a des trucs d'habits entre temps.
Merci Seigneur pour tout ce que nous avons pu entendre ce soir et merci Seigneur parce que tu es à la fois un Dieu de vérité, de justice, mais d'amour et de grâce. Et nous voulons te prier Seigneur que nous puissions avoir une réelle crainte positive Seigneur qui nous permet de vraiment honorer ta parole jour après jour. Et Seigneur, nous voulons Seigneur te rendre grâce pour tous ces enseignements et pour ta fidélité. Et parce que tu veux que le pécheur change, se repente et se tourne vers toi. Merci Père de l'exemple d'Élie. Et merci Père de nous garder les uns les autres, nous raccompagner et bénir le restant de cette semaine. Au nom de Christ.
Amen. Amen.